vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du jeudi 28 novembre 2024, nous vous diffuserons deux montages. Dans une première partie d'émission, nous vous diffuserons un reportage qui a été réalisé le 21 novembre dernier lors de l'Assemblée Générale qui se tenait à la Gare du Nord. En effet, les fédérations CGT Cheminots, UNSA Ferroviaire, Sudrail et CFDT s'opposent au projet mis en place par la direction, considéré comme une privatisation rampante du groupe suite à la contre-réforme du ferroviaire de 2018. Ils demandent donc d'abord l'arrêt de la scission de fret SNCF qui doit intervenir à partir du 1er janvier 2025 avec la création de deux entreprises, Exafret, dédié au transport de la marchandise et Technis pour la maintenance des locomotives, avec, évidemment, une réduction de 10% des effectifs à la clé. Vous pourrez donc entendre les reportages et prises de parole des cheminots et cheminotes qui ont été réalisés le 21 novembre dernier lors de ce rassemblement. Ensuite, dans une deuxième partie d'émission, vous pourrez écouter les petits reportages que nous avons réalisés lors de la manifestation annuelle contre les violences sexistes et sexuelles qui a eu lieu samedi dernier, 23 novembre. On vous laisse écouter le premier reportage et on revient ensuite dans l'actualité des luttes.
Les chiffres du gouvernement et des patrons, ce ne sont pas les nôtres. Quand on fait nos courses, lorsqu'on paye nos factures, l'électricité, l'essence, les assurances, on est bien au-dessus des 1,5% d'inflation. 1,5% d'inflation, c'est impossible. ICF, le bailleur de la SNCF, où un certain nombre de cheminots sont logés, a annoncé une augmentation des loyers de 3,5%. Comment l'inflation réelle pourrait être à 1,5%? La direction, elle se fout de notre gueule avec ses augmentations, avec ses chiffres derrière la virgule. 0,5% d'augmentation, c'est inacceptable. Dans son temps réel, la direction, elle ne parle pas des bénéfices, des 1,3 milliard de bénéfices réalisés. Ces bénéfices, ils sont faits avec l'exploitation des cheminots, le sous-effectif, les réorganisations en permanence, la polyvalence, la pression au boulot. On n'est pas seul à se poser ces problèmes. dans le reste du monde du travail, que ce soit à Michelin ou Auchan par exemple, il y a des bénéfices et les patrons, ils suppriment des postes, ils s'attaquent à l'emploi. Ces bénéfices, ils devraient appartenir aux travailleurs. La force des travailleurs en lutte, elle devra imposer la réquisition de ces bénéfices et qu'ils servent aux travailleurs. En plus des attaques du patronat, il y a le gouvernement. Il veut imposer de nouveaux sacrifices pour éponger les déficits. C'est le monde à l'envers. Ceux qui sont les plus utiles, les plus indispensables à la société, sont menacés jusque dans leurs conditions d'existence quand les grands parasites, les financiers, les actionnaires, les milliardaires sont de plus en plus riches. Il n'y a aucune raison de se laisser marcher dessus et la lutte collective est la seule et unique voie pour se faire respecter. La liquidation du fret, l'ouverture à la concurrence, à l'étoile d'Amiens, à Transilien, sur la ligne H, c'est une seule et même attaque. La direction, elle souhaite nous attaquer un par un pour nous diviser et c'est juste de réagir tous ensemble, on en a cette occasion. Ce qui compte, c'est de mettre nos préoccupations de travailleurs en avant. Il faut se bagarrer pour des augmentations de salaire, contre le sous-effectif, pour nos temps de repos, pour nos conditions de boulot, on ne doit rien perdre. Pour justifier la liquidation du fret, la privatisation, la filialisation, les patrons de la SNCF, le gouvernement, ils parlent de la Commission européenne, ils parlent de pertes d'argent, de services qui ne sont pas assez rentables. Tout ça, ce n'est pas notre problème. La bourgeoisie, elle se fait assez de pognon, les milliards, ils s'accumulent pour eux. Pour nous, ce qui compte, ce qu'on doit exiger, ce n'est pas touche à notre boulot. On exige que nos salaires ils suivent l'augmentation réelle des prix et des loyers et on doit exiger de pouvoir travailler dans des conditions dignes. C'est tout le monde du travail qui est attaqué en ce moment. C'est une vague de fermeture d'usines à l'échelle nationale. 7500 postes supprimés. Et encore, c'est que la face visible. Il y en aura beaucoup plus. Quand une usine ferme, c'est toute une région qui meurt. C'est des sous-traitants qui ferment, des petits commerces qui ferment et certains travailleurs de ces sites qui ferment sont déjà en lutte ou se préparent. La fonction publique est aussi attaquée. L'État, c'est un patron comme les autres et il prévoit bientôt d'être en grève. Tous les travailleurs y subissent le même problème, la rapacité des patrons, des financiers. Un mouvement qui se lancerait chez les cheminots, chez les fonctionnaires, un mouvement qui se généraliserait d'une usine à une autre, c'est sur ça qu'il faut miser. Ceux qui sont en grève aujourd'hui, ils ont raison. On doit continuer à s'adresser à nos collègues. C'est tout le monde du travail qui doit relever la tête. La force des travailleurs, c'est la grève.
Bah, la première chose, c'est la grève d'aujourd'hui. C'est une date qui est tombée un petit peu de là-haut, comme assez souvent. C'est pas là le souci. Le souci, c'est toute l'énergie qu'on a donnée, ou toute l'énergie justement qui n'a pas été fournie pour que cette journée soit vraiment une réussite. En temps normal, on peut que se réjouir d'une grève, parce que finalement, la grève, c'est un jour où on ne bosse pas et où on se bagarre. Mais moi, j'ai pas du tout senti une réelle envie, en fait, de fonctionnement. Et je pense que déjà, les chiffres de grève, un petit peu à droite et à gauche, on se démoralise pas, mais je pense plutôt à être réaliste. Ils sont pas exceptionnels. Mais il y a quelque chose qui nous a choqués, on en discute pas mal sur nos différents réseaux et entre nous, c'est le fait que dans les revendications de la grève du jour, on n'évoque pas les salaires. Voilà, on n'évoque pas les salaires alors que finalement il y a un contexte inflationniste de dingue avec tout ce qui l'entoure, hein, la guerre à nos portes, des plans sociaux de fous alors que du pognon, bah, y en a en fait, voilà, on essaie de nous faire passer pour des buses en nous disant que pour tel et tel motif, il faudrait réaliser des fermetures et des suppressions de postes. Ce qui me chiffonne particulièrement, c'est de ne pas avoir mis et de ne pas parler d'augmentation de salaire. Voilà, moi, c'est quelque chose qui va absolument pas avec la période, dans le sens où c'est de plus en plus dur pour les travailleurs de pouvoir arriver à la fin de mois. La fin de mois, chez certains, c'est à partir du 5, hein. Voilà, hein, donc faut avoir ça en tête que ne pas parler de salaire, moi, c'est de se couper d'une partie des personnes et surtout ne pas écouter ce qui se passe en fait sur le terrain. Donc ça, voilà, moi, c'est un petit peu mon premier coup de gueule, puisque finalement, c'était ça que je voulais mettre dans le premier point. Mais le second, ça a été abordé, c'est les NAO à la SNCF. L'entreprise a envoyé un temps réel hier soir en nous disant qu'il y avait 0,5% d'augmentation de salaire à partir du mois d'avril 2025. Je crois que c'est 15 € pour les statutaires et 13,50 € pour les contractuels. Bon, voilà. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est du foutage de gueule. C'est même plus insuffisant. Insuffisant, ce n'est pas un adjectif assez fort. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Il y a de l'argent qui est rentré. Il y a eu un événement qui est assez récent où les journaux se sont un peu félicités que cet événement avait marché. Bah, c'est, en deux lettres, c'est les Jeux Olympiques, c'est les JO. Voilà, il y a tout un tas de métiers qui ont bossé. La SNCF en fait partie. Ils étaient bien contents que ça se passe relativement bien. Et je vais même aller plus loin. Les JO, ils sont bien passés parce que bah, tout le monde était au boulot. Mais tout le monde a été au boulot. Pourquoi ? Il y a un événement qui a quand même changé la donne. C'est qu'au départ, l'entreprise SNCF proposait 50 € brut par journée travaillée. Nous, on a en tout cas estimé que ce n'était pas suffisant. Si bien qu'il y a eu une journée de mobilisation, une journée de grève le 21 mai. Parce que pour nous, c'était beaucoup trop peu par rapport à nos différentes réflexions de se dire 50 € pour une journée. Donc il y a eu une journée de grève, c'était juste avant une table ronde qui s'est tenue le lendemain. Ben, force est de constater que déjà pour cette journée, il y a eu une mobilisation importante, il y a eu de l'envie, ça a été poussé, et ben finalement... À la suite de cette journée de grève, d'une part, la table ronde qui s'est tenue le lendemain, et ben finalement, ça a gradué à 95 €. Donc, c'est pas par le Saint-Esprit que finalement on a eu ça, c'est parce qu'il y a eu de la mobilisation, parce qu'il y a eu de la bagarre. On compare ce qui est comparable, mais en tous les cas, ça c'est quand même une preuve en image que finalement, quand on y met vraiment toutes les bonnes volontés, et ben on peut arriver à quelque chose. Donc voilà, ça, il faut pas avoir la mémoire courte parce que c'est très récent. Pour moi, il faut qu'il y ait un conflit. Voilà, il faut qu'il y ait un conflit parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Là, encore une fois, avec l'annonce d'hier, les NAO, on se fout littéralement de nous. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un conflit, mais il faut discuter sur les modalités. Et je pense que c'est l'intérêt aussi de se retrouver aujourd'hui, c'est de discuter de tout ça. Bah, déjà, c'est de se retrouver parce que bah, à défaut d'avoir une manif ou une grève, bah, moi, je suis bien content de voir tous ces visages parce que bah, au moins, ça me rappelle des bons souvenirs. Et le but, c'est surtout de préparer le après. Donc il faut qu'on discute, il faut que... On discute un petit peu de tous les points de vue qu'on peut avoir et de tous nos avis. Mais pour moi, il faut qu'il y ait un conflit, mais pas n'importe comment. Il faut qu'on nous écoute. Il faut que la grève, elle ressemble à ce qu'on a envie. Moi, la dernière chose que je voulais dire, c'est que, mais on se le dit déjà, il n'y a rien à attendre des directions syndicales. Il n'y a rien à attendre des directions syndicales. Donc il faut que ça émerge de nous. Donc bah, aujourd'hui, on se réunit entre nous. C'est notre AG, c'est notre moment. Donc à nous de faire ce qu'on a envie de faire.
Il y a pas mal de choses qui ont été déjà dites. Effectivement, les salaires, c'est un vrai point clivant. Hein. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrive à créer un mouvement là-dessus. Mais aussi aujourd'hui, par rapport à la journée, c'est quand même une journée contre la casse du fret et contre l'ouverture à la concurrence, qui va nous toucher bientôt. Mais moi, je pense, et c'est comme ça que je vois la chose, après, de faire des grands discours, des grandes tirades, c'est pas comme ça qu'on va, on va y arriver. Alors, c'est toujours intéressant de mettre quatre grands logos dans les tracts avec une intersyndicale, mais si derrière, les copains et les copines qui travaillent sur place, qui se sentent pas concernés, c'est qu'on a mal fait quelque chose. Aujourd'hui, on a mal fait quelque chose. On peut se dire, ouais, cette journée, c'était une journée de merde, tout ça, mais on n'a pas mis... en tout cas, l'ambition qu'on a envie de mettre dans tout ça. L'ouverture à la concurrence, nous, on est chez Transilien, ça va nous toucher. Et je pense qu'il va falloir quand même commencer à travailler dès maintenant pour mobiliser les troupes, parce que quand ça va nous toucher, on va être dans nos petits endroits, dans nos petites entreprises, dans nos petits établissements, et il faudra aller se battre, de toute façon, pour obtenir des choses. Parce que le patron, avec l'ouverture à la concurrence, qu'on soit dans une filiale privée ou une filiale de la SNCF, nos conditions de travail vont être mises à sac, les salaires et ainsi de suite. On n'aura pas la même force de frappe pour les NAO quand on essaye de faire pour nationalement que quand on fait localement. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à réfléchir à comment nous, on a envie de mener cette bataille, en tout cas au plus proche du terrain. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, on peut critiquer, on peut dire oui, le fret c'est pas normal, Mais qu'est-ce qu'on a fait avant et qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et c'est là où on doit tirer nos conclusions. Aujourd'hui, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a certains endroits, ça marche. Moi, sur la ligne B, aujourd'hui, sur les prises de service jusqu'à 10h, 11h, sur une soixantaine de prises de service, il y a quand même 40 grévistes. Donc, c'est pas rien. Mais je pense qu'il y a tout. Parce que les copains et les copines, quand ils se sont mis en grève aujourd'hui, c'est aussi par rapport à l'annonce qui a été faite hier par rapport au NAO, parce que ça les touche directement. Pour beaucoup de gens, l'ouverture à la concurrence, c'est trop loin. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé, que ce soit dans le privé à ADP, lorsqu'il y a eu l'ouverture à la concurrence, les travailleurs, ils ont commencé à faire grève que quand ils étaient dans la nouvelle société. Pas avant, pas après. Donc, il y a une façon de voir et de comprendre les choses. Et je pense qu'on doit l'expliquer. Alors, si on veut être plus fort, il va falloir qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille tous ensemble. Moi, je ne peux pas entendre, comme certains ont pu le dire, hein, et je pense que c'est un petit peu ça. Là, la casse du fret, y en a certains, ils ont l'impression que c'est plus un baroud d'honneur que, voilà, on a fait. On ne peut pas se contenter que de ça. On ne peut pas se contenter de dire, ouais, voilà, aujourd'hui, le fret, il est là, il disparaît, on va se mettre en grève, mais on verra ce que ça va devenir. Ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas l'entendre. Et donc, je pense que les discussions doivent se tenir autrement. Et c'est plus comme ça. Regardez autour de vous, regardez dans où vous travaillez. On est tout le temps sous effectif. On est tout le temps sous effectif. C'est juste pas normal. Et donc, la SNCF fait aussi de l'argent dessus. Donc, ouais, fait un pognon de dingue, mais sur notre dos. Et il est hors de question de se laisser faire. Et donc, je pense qu'il faut qu'on amène la discussion au plus proche du terrain plutôt que d'essayer de faire un truc vraiment très policé au niveau des quatre fédérations là-haut.
Là où on a loupé quelque chose et où ça illustre quelque chose, notre grève du jour, c'est que c'est pas en alignant des logos qu'on met des cheminots en grève. Et ça marche à la SNCF, mais pas que. On arrive à discuter entre organisations syndicales, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, la démonstration est faite aujourd'hui qu'une stratégie décidée plutôt d'en haut, sans trop de concertation, ça ne marche pas. Et ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on soit si peu et si peu à présenter qu'est-ce que va être la suite et à discuter de ce que va être la suite, à présenter chacun nos visions, parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes visions, mais à présenter ce qui va être la suite et à en débattre. Donc voilà, donc c'est pas qu'on n'a aucune légitimité là, au contraire, mais c'est vrai que c'est quand même complexe, vu les taux de grévistes qu'il y a un petit peu partout, de tirer un signal positif de ça, alors qu'il y avait trois thèmes dans l'appel à la grève à la SNCF qui étaient juste le fret, l'ouverture à la concurrence et la préservation, régénération du réseau. Et évidemment que nous, on voulait y mettre les salaires parce que c'est ce qui fait parler, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui nous fait vivre. Force est de constater qu'avec une grève à l'économie en 2018, on l'a perdu, l'ouverture à la concurrence. On ne va pas se raconter 50 000 histoires. 2018, on l'a perdu. On aurait pu la gagner, on aurait dû la gagner. Mais avec une grève qui a été massacrée d'entrée avec une grille du loto que tout le monde a anticipée, et surtout nos patrons, c'est pas aujourd'hui, à même pas un mois de l'ouverture à la concurrence pour la plupart des collègues de TER qui basculent, et à un mois pour ceux du fret, qu'on va les faire reculer. Enfin, il ne faut pas se raconter des histoires. Ce n'est pas un baroud d'honneur. On ne fait pas grève pour le fret aujourd'hui ou pour l'ouverture à la concurrence. Il y a des multiples raisons pour lesquelles on fait grève. On fait grève avec eux. Maintenant, on ne va pas aller chercher les taux de grévistes au fret ou au TER. Ils ne sont pas exceptionnels non plus. Il y a eu des périodes récentes où il y a eu des trous dans l'économie, où il y a eu des plans sociaux avec des travailleurs qui ont été attaqués, pas sentis attaqués. Il y en a toujours autant, voire plus, là. Là, il ne se passe pas un jour sans qu'on annonce 2000, 3000, 5000 ArcelorMittal, Michelin. Et ce n'est pas une PME de 20 ou 30 bonhommes là, qui ferment. C'est des usines complètes qui ferment dans l'industrie. Et c'est ce qui va sûrement nous arriver si on ne se bouge pas, en effet. Parce qu'on va être des petites PME du rail. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, ces gros groupes sont capables de fermer des usines en claquant des doigts juste pour préserver leurs bénéfices ou pour maintenir leur indice dans les bourses, ça devrait nous faire réfléchir. Donc, on n'a peut-être pas été capable de l'insuffler auprès de nos collègues. Bon, encore une fois, rien n'est perdu. Il va falloir discuter dans les jours qui viennent sur la stratégie qui vient. Est-ce qu'une grève reconductible décidée comme ça, un coup de téléconf, ça suffit? Moi, j'en suis personnellement pas du tout convaincu. Voilà, donc Il y a des taux de grévistes qui ne sont pas anodins à certains endroits, mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi à d'autres, il y a des taux extrêmement bas. Est-ce qu'il y a de la résignation? Moi, je pense, parce que la culture de la défaite à la SNCF, elle y est quasiment. Ça a été évoqué par Anthony. Il y a eu une grève gagnante sur les JO au mois de mai. Bon, ça a été une grève d'un coup et qui allait chercher du salaire ou de la rémunération ou mettre un petit coup de pression sur des conditions de travail qu'on a obtenues. Et là aussi, on peut quand même tous voir que quand il y a un peu de fric sur la table et du monde pour organiser le travail, ça roule quand même mieux. Ça roule quand même mieux. Donc voilà. Encore une fois, on n'est pas là pour se donner des leçons. Ceux qui sont là, moi, ils ont tout mon respect parce que c'est loin d'être évident aujourd'hui de venir. J'aurais aimé qu'il y ait quand même beaucoup plus de monde et qu'on discute, quitte à pas être d'accord, quitte à s'engueuler. Mais ça manque de perspective et on en tirera chacun des conclusions. Si certains pensaient que nos patrons pensaient aux cheminots de la base, à ceux qui font tourner la boutique, pensent à ceux qui vont être transférés, parce que là aussi, vous entendez partout, rien ne va changer pour vous. Bien sûr que tout va changer si on est transféré ou si on est transféré dans une filiale de la SNCF de droit privé, tout va changer. Et si on est transféré dans une boîte concurrente, ça va encore plus changer. Mais quand on voit le mépris de classe qu'ils ont, ces gens-là, quand j'ai vu certains tracts passer hier et qui se glorifient d'éviter le gel des salaires à 0,5, bon, ils ne sont pas là, donc je ne vais pas leur dire tout le mal que je pense, tout le mal que ça fait de sortir vainqueur d'une négociation comme ça, parce qu'il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation salariale, il ne devrait même pas y avoir de NAO. Il y a des bénéfices, les bénéfices c'est le produit de notre travail, ça devrait nous être tout ou partie reversé. Aujourd'hui c'est clairement pas le cas, des milliards il y en a eu depuis des années. On pouvait être compréhensif pendant la période Covid, on nous a dit patienter, on nous a dit pendant 8 ans de patienter. Maintenant qu'il y a des bénéfices en milliards, ça ne nous est pas reversé. Donc moi j'espère que c'est ça qui fera l'étincelle, j'ai encore de l'espoir. C'est que ça n'y était pas dans les premiers préavis, dans les premières discussions même qu'on a eues avec certains de nos collègues, et c'est quand même venu de la base ça. Quand certains nous disent c'est compliqué de discuter avec la base, non, c'est pas compliqué. Quand vous discutez, quand vous tournez, ce que vous parlent vos collègues aujourd'hui, parce que peut-être qu'ils ne sont pas concernés par l'ouverture à la concurrence du 15 décembre ou du 1er janvier comme au fret, c'est des salaires. Donc de l'argent, il n'y en a jamais eu autant, il va falloir clairement aller le chercher, parce que les 0,5, si certains s'en contentent, j'espère que la grande majorité d'entre nous ne s'en contente pas.
On est peut-être tous convaincus, mais pas forcément tous convaincus de la même chose. C'est qu'en fait, quand on voit les attaques qu'il y a, que ce soit le fret, l'ouverture à la concurrence, tout le monde l'a dit, les Michelin, etc. En fait, c'est vraiment une attaque générale du patronat et du gouvernement contre les travailleurs. Et ce qu'il faut qu'on réussisse à se mettre dans la tête, c'est qu'on est un petit bout de tous ces travailleurs. On parle de défaite, on parle de machin, bah oui. Tant qu'on préférera se bagarrer tout seul dans notre coin sur des choses qui ne concernent que les cheminots, eh ben on se prive des vraies chances de marquer de vrais points. Il faut se convaincre qu'on fait partie de ce monde du travail, qu'on fait partie de cette classe ouvrière au sens large, qu'on fait partie de tous les travailleurs qui prennent des coups aujourd'hui, que le gouvernement et le patronat prévoient de nous enfiler d'autres encore sur la tronche avec leur histoire de budget, de déficit, qui veulent faire payer seulement aux travailleurs et juste trois miettes pour quelques grands riches, histoire de justifier le fait de faire encore plus payer aux travailleurs. Eh ben, c'est quand on sera capable de tous battre ensemble qu'on arrivera à peser vraiment et à leur passer l'envie d'accumuler les coups sur notre tête. C'est une période particulière. Là, visiblement, on en serait à 250 plans sociaux prochainement dans le pays. C'est des milliers, des milliers, des milliers de travailleurs qui sont concernés, effectivement, avec la sous-traitance, avec les fournisseurs, avec tout le monde que ça entraîne à chaque fois là-dedans. Et faut sortir de notre tête de cheminot et rentrer dans notre vraie tête de travailleur et réfléchir à comment on va pouvoir le faire, comment on peut aller voir d'autres travailleurs en grève dans des boîtes quand il y en a, quand ça bouge, comment on peut essayer de monter un mouvement qui soit vraiment celui qui permettra de peser face au gouvernement, face au patronat. Mais ça, justement, on n'en est pas convaincus tous dans nos têtes. Et je pense que c'est de ça qu'il faut se convaincre si on veut vraiment être fort un jour.
La
suite, c'est ce que proposent les directions syndicales à la SNCF, c'est le 11 décembre. Je l'ai dit, il y a aussi un mouvement des fonctionnaires qui est prévu en décembre, et le 5, j'avais plus la date en tête, le 5, et il y a des sites qui ferment, qui sont en lutte, pas encore tout à fait en grève, tout ça, ça se prépare, mais il y a un contexte. Et quand on est militant, bah voilà, on fait les paris qu'on espère fonctionner. Il peut y avoir un mois de décembre, bah voilà, qui soit sur l'aspect des luttes sociales, sur l'aspect des travailleurs qui se bagarrent. Alors, on a parlé des directions syndicales, on a parlé que ça serait les salaires qu'il faudrait mettre en avant, et ben qu'on compte sur nos propres forces. On est des commerciaux ici, des tractionnaires, mais on est un certain nombre à être des militants et à savoir que notre perspective, c'est de s'adresser à nos collègues, c'est d'organiser des tournées, c'est de parler sur nos chantiers. On sait le faire, on l'a déjà fait, des tournées intermétiers parfois, sortir nos propres tracts. Donc on a tout ce boulot à faire pour préparer le 11 décembre parce qu'il faut que ça fonctionne. Voilà, ça doit dépendre de nous. On ne peut pas juste s'arrêter à la critique de ce qu'on pense qui n'est pas bien fait. On a aussi notre carte à jouer. Il faut qu'on mette toutes nos forces dans notre bagarre, dans cette bagarre, qu'on ne regrette rien. Voilà. Parce qu'il y a cette occasion de se bagarrer tous ensemble. Faut qu'on la saisisse. Voilà, on a raison de défendre la grève. Et qu'on s'adresse à nos collègues et qu'on se sente fort dans nos têtes.
Le 12, c'est bien.
Le 12 à 11h.
C'est mieux.
On sera là. Il y aura, j'espère, au minimum ceux qui seront là et à nous de ramener les autres.
Ce 21 novembre 2024, on est à Gare du Nord aujourd'hui. Un appel à la grève a été acté il y a quelques jours. Le 12 novembre, il y avait une grève à la RATP, un peu pour les mêmes choses d'ailleurs, ouverture à la concurrence et tout ça. On voit que dans les transports, il y a une espèce de redistribution un petit peu par lot qui se fait, c'est le cas pour la RATP. Donc j'aimerais savoir un petit peu, avec notre interlocuteur qui va se présenter, comment ça pourrait mieux fonctionner sur cette question-là.
Alors moi je m'appelle Farid Derouy, hein, je suis agent commercial sur la ligne B, je suis délégué depuis une quinzaine d'années. Alors effectivement sur la ligne B, au niveau sud c'est la RATP, au nord c'est la SNCF, à partir de Gare du Nord. Donc ça c'est l'état des lieux. Aujourd'hui on est attaqué par les patrons, par les mêmes attaques, l'ouverture à la concurrence, inflation et conditions de travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est vraiment par souci de syndicats interposés, puisqu'on n'a pas les mêmes syndicats. Nous, on est à Sudrail et de l'autre côté, il y a Solidaire. Mais sans changer de nom à la CGT, c'est la CGT RATP et la CGT Cheminote, aujourd'hui, on n'arrive pas à créer un vrai rapport de force commun avec les deux entités. La vraie question, et ça je peux l'entendre, mais la vraie question c'est, est-ce qu'il y a-t-il de l'ego? Est-ce que chaque syndicat a envie de prôner sa meilleure politique et sortir victorieuse en disant qu'elle a eu besoin de personne? Ça, moi je pense que c'est les plus grosses questions. Nous, en tant que travailleurs, et c'est comme ça qu'on voit la chose, même si je fais partie de Sudrail, Sudrail n'est pas représenté à la RATP. J'ai envie de parler aux salariés de la RATP. Parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes conditions. C'est des trains qui roulent, qui ont plus de 50 ans. Les premières rames du RERB, c'est 1970. Pour les rames de train, aujourd'hui, voilà, elles sont vétustes. Ils mettent un peu de couleur, donc en repeignant un peu les murs du remaquillage, effectivement. Après, il y a les infrastructures. Les infrastructures, un train qui roule, ça use. Ça use les voies, ça use les traverses, ça use le ballast. Et ça, c'est un pognon qu'il faut mettre en place. Malgré que la SNCF elle arrive à mettre du bénéfice, comme je pense la RATP n'a pas fait ce choix-là comme à la SNCF. Ils ont annoncé un déficit l'année dernière. Mais parce que, pareil, ils ont investi sur leurs infrastructures. Et donc tout ça mélangé Et ça crée une discorde entre les salariés de la SNCF et les salariés de la RATP. Et chaque syndicat tire de son côté avec un peu ses positionnements. Je pense que si on remettait tout à plat et qu'on parlait vraiment de conditions de travail, d'augmentation des salaires par rapport à l'inflation, d'ouverture à la concurrence, mais l'ouverture à la concurrence, c'est tout un travail qu'il faut faire. C'est aller expliquer à nos collègues tous les jours que ça changera. Effectivement, nos conditions de travail vont changer. On n'aura pas les mêmes entreprises et ça sera encore plus difficile de se coordonner. Là, aujourd'hui, on a la chance d'être deux. Si ça se trouve, dans 10 ans, avec l'ouverture à la concurrence, on sera peut-être 4. Et là, ça sera encore plus difficile. Donc, s'il faudrait que je dise, c'est que les travailleurs de l'autre côté, au niveau de la RATP, comme les travailleurs de la SNCF, se mettent en lien. On n'est pas obligé d'attendre que les OS posent un préavis pour s'y mettre, mais plutôt que les travailleurs qui sont convaincus de l'autre côté, et les travailleurs sans étiquette, hein, bien sûr, on se pose autour d'une table et on essaye de taper sur une journée ensemble ou plusieurs jours. Hein. Moi, j'ai pas de sujet, mais voilà, une journée au minimum et plusieurs jours à la fin pour vraiment pouvoir exprimer notre mécontentement là-dessus.
Qu'est-ce que ça pourrait changer pour les voyageurs et voyageuses aussi, cette ouverture à la concurrence et la privatisation ?
Alors, les patrons de la SNCF, comme Île-de-France Mobilité, hein, qui est présidée par Valérie Pécresse, pour elle, c'est que les billets coûteront moins cher, qu'ils pourront mettre en concurrence les entreprises pour avoir satisfaction client. Mais au-delà de ça, c'est quand même Île-de-France Mobilité qui bloque. Aujourd'hui, les rames, si elles n'arrivent pas sur la ligne B, on a commandé des rames qui devaient arriver en 2025 à la SNCF et à la RATP. Ils n'arriveront pas avant fin 2030 ou début 2030. Ils sont déjà en retard. Donc les moyens, est-ce qu'ils ont vraiment mis les moyens dessus? Je ne pense pas. On est tellement surchargé en termes de voyageurs. On est quand même la ligne où il y a le plus de voyageurs, hein, par jour. Il suffit juste d'un malaise, d'un petit grain de sable et que les trains ils s'arrêtent, hein. Les trains ils se doublent pas, ils sautent pas par-dessus les autres, c'est des voies et ils se suivent, donc il n'y aura pas réellement d'amélioration. La seule différence qu'il y aura, c'est que Île-de-France Mobilité fera du dumping social sur les travailleurs.
Pourtant avec une augmentation du Pass Navigo quand même, hein.
Alors le Pass Navigo, oui effectivement il y a une augmentation du Pass Navigo là-dessus, mais moi qui ai une vingtaine d'années à la SNCF, la carte orange, au dernier moment de la carte orange, elle coûtait quand même 135 euros quand c'était passé en euros. Donc 135 euros, il y avait les zones 1 à 6. Aujourd'hui, on a zone 1 à 5. On est à peu près à 86 et quelques. Oui, effectivement, ça ne va pas arrêter d'augmenter. Mais comme la vie aujourd'hui, chaque patron tire son épingle du jeu suite à l'inflation, donc ils augmentent leur prix. Et bien sûr que, mais il y a juste une chose qui augmente pas réellement, c'est les salaires. Et c'est ça qui est problématique, c'est que aujourd'hui on pense qu'avec le Pass Navigo on peut payer les salaires de tous les travailleurs qui travaillent tous les jours pour faire fonctionner cette ligne. C'est pas que le Pass Navigo qui paye les salaires, c'est aussi les indemnités et la région.
Le 5 décembre, il y a un appel à grève dans la fonction publique. Nous sommes à Paris. Depuis le 14 octobre, il y a une grève à l'hôpital Beaujon. Comment se fait-il que ces luttes qui sont importantes sont un peu éparpillées? Parce que par exemple, aujourd'hui, il aurait pu y avoir ici des gens de l'hôpital, même s'ils ne sont pas cheminots, mais pour expliquer aussi ce qui est en train de se passer à Paris. Et qu'est-ce qui pourrait faire un petit peu que tout ça puisse se rencontrer? Peut-être le 5 décembre, il y aurait peut-être effectivement moyen de un peu de remettre un petit peu de la, j'allais dire, du charbon dans la locomotive, mais bon, c'est pas très écolo. Mais bon.
Oui, on peut mettre de l'huile sur le feu aussi. Mais effectivement, nous, notre but, et c'est le but de notre AG, c'est d'essayer de créer de l'interpro. On est une AG aujourd'hui où on a un point de rendez-vous à la gare du Nord, qui est très connu un petit peu des militants, mais de partout. Rien ne nous empêche aussi le 5 décembre d'aller les voir à l'hôpital Beaujon. Ça, c'est envisageable et même envisagé, je dirais, puisque on a toujours prôné l'interpro de tous les travailleurs dans nos trajets ici.
Je
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On passe donc à la seconde partie de cette émission dans laquelle nous vous diffusons un reportage réalisé lors de la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles.
Alors, bienvenue à tout le monde pour cette grande manifestation pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Bravo !
35 000 femmes blessées, dont certaines sont amputées. Et ces femmes sont d'une résistance incroyable, parce que celles qui ont survie, elles continuent à travailler comme infirmières dans les hôpitaux, comme journalistes, elles continuent à s'occuper des 17 000 enfants qui sont devenus orphelins du père ou de la mère ou des deux parents. Ces femmes sont extraordinaires. Nous sommes fiers des femmes de Gaza.
Nous sommes fiers des femmes de Gaza. Nous sommes fiers des femmes de Gaza.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bonjour, madame Tunkara, représentante syndicale CGTHP à l'hôtel de campagne de première classe Souraine.
Donc vous êtes en grève depuis 19 août, c'est ça?
Oui.
Tu peux me dire pourquoi, s'il te plaît?
Ben on est en grève, en fait, on demande la réintégration de notre camarade qui est parti en vacances pendant ce temps-là. Il a pris ses documents, ils l'ont licencié. On veut l'augmentation des salaires en accès sur l'inflation. Et on veut, comment ça s'appelle, le prime au GE aussi, pardon.
Parce que,
oui, pendant les jeux, on a beaucoup travaillé. Et ben, du coup, les partages qu'ils ont faits, ça ne nous convient pas parce qu'ils ont partagé les primes Macron. Pour nous, ça ne rentre pas dans le partage de... comment ça s'appelle, les primes Géo.
Ok. Et alors, vous êtes nombreux et nombreuses à être en grève?
Oui, on a 18 personnes en grève.
Et comment est-ce qu'elle réagit, votre direction?
Ben, pour l'instant, il y a beaucoup de réunions, mais sans suite, en fait. Même la dernière réunion, c'est presque limite, a été violent. Ben, du coup, on s'est arrêté. Ben, là, pour l'instant, on est bloqué sur ça. Ben, heureusement, il y a eu l'élection le 19. On a gardé quand même nos deux sièges au niveau du groupe Nouveau Hôtel, le syndicat CGTHP.
Ok, est-ce que tu peux revenir un peu sur tes conditions de travail et m'expliquer pourquoi est-ce que vos revendications, elles sont légitimes?
Bien sûr, les conditions de travail très dégradées, trop difficiles. Avec le travail qu'ils sont en train de faire, il y a de nouveaux matelas super lourds. Il y a beaucoup de camarades qui sont en arrêt maladie. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de changement en fait. On fait plus de 20 et quelques chambres par jour. C'est quand même énorme.
Vos revendications, c'est donc l'augmentation des salaires de base,
oui.
L'instauration d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat,
oui.
L'arrêt de la déstabilisation des salariés,
oui.
Avec des procédures disciplinaires infondées,
oui.
Et la réintégration immédiate de votre camarade Magasa.
Oui.
Alors, la déstabilisation des salariés, ça veut dire quoi? Tu peux me raconter un peu?
Ben déjà, on peut dire, là, on regarde le licenciement de notre camarade, c'est un syndicaliste. Ben, c'est un syndicaliste qui a fait plusieurs grèves à Souraine. Il y a un autre camarade qui est convoqué pour un éventuel licenciement ou disciplinaire. Ben, il y a tout ça. En plus, il y a de menaces pour ceux qui essaient de nous soutenir, tout ça. Enfin, c'est trop compliqué en fait actuellement. Les conditions, surtout quand on est syndicaliste.
Vous êtes victime de discrimination syndicale?
Bien sûr. Ça, on veut dire oui.
Et tu disais que la dernière réunion, ça avait été presque violent.
Ben, pour nous, oui. Parce que la manière que ça a commencé, c'était pas... Ça, en fait, quand on avait fait le réunion d'avant, c'est bien passé. Mais après la suite, la personne, deux personnes qui est venue, la manière qu'on nous a pris, c'était vraiment violent pour nous.
De quoi est-ce que vous avez besoin pour votre soutien là?
Ben, on a besoin de solidarité de tous les camarades, aux nouvelles financières, aux caisses des grèves, tout ce qui peut nous soutenir, nous aider pour que la grève avance, on aura besoin.
Ok, et là vous allez continuer, vous avez un piqué pour la reconductible sur l'hôtel?
Oui, on est tous les jours devant 15 boulevard Henri Sellier. Devant l'hôtel première classe et campanile, du lundi au samedi, parfois et à dimanche, ce ne sont pas.
Ok, et vous demandez à ce que les gens y passent?
Oui, on a besoin de solidarité de soutien.
Salariés au foyer, françaises ou immigrées, c'est tout ensemble qu'il faut lutter, c'est tout ensemble qu'on va gagner.
Eh bien bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Bonjour, donc je suis Oriane, je suis à la CGT du Centre d'Action Sociale de la ville de Paris.
Ok, alors vous êtes venue à plusieurs collègues aujourd'hui dans cette manifestation. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les raisons de votre présence?
Déjà, le Centre d'Action Sociale de la ville de Paris, c'est un milieu qui est essentiellement féminin, puisqu'on travaille en gros dans les métiers du social et enfin médico-social pour la ville de Paris. Donc c'est pour nous, les violences contre les femmes, c'est quelque chose qui nous parle de par notre vécu et sur lequel on a envie aussi de pouvoir militer et agir, notamment sur les violences au travail qu'on peut subir, surtout sur les questions de harcèlement qui peuvent y avoir, de la part de la hiérarchie ou de la part de collègues.
Ok. Et résultat, vous avez un peu deux entrées finalement sur cette question-là, qui est votre propre rapport au travail. Et je suppose que c'est aussi des questions qui sont soulevées quand vous faites votre travail aussi, c'est-à-dire au sein de votre activité.
Les premières victimes de toutes les économies et des crises qu'on vit, ça reste quand même les femmes et les enfants. Et en général, les personnes qui vont élever des enfants seules, bah, ça va être les femmes. Les personnes qui vont être plus précarisées, ça va être des femmes, parce que les charges sont plus importantes. La part sur les violences conjugales a aussi pris beaucoup plus d'importance ces dernières années, parce qu'on s'en préoccupe beaucoup plus.
Et on vous donne les moyens de ça ?
Faut se battre ?
On n'a pas forcément les moyens. Et puis, il y a aussi le harcèlement sexuel qui peut se faire auprès des collègues, entre collègues. Parce qu'on a aussi beaucoup de collègues dans les EHPAD, dans la restauration. C'est très vaste, en fait, le centre d'action sociale. Et même nos propres collègues peuvent subir effectivement du harcèlement sexuel, des violences sexuelles, voire des agressions sexuelles. Voilà, donc c'est vraiment un combat qui nous tient à cœur pour le public qu'on reçoit, mais aussi pour nous, femmes qui travaillons pour le centre d'action sociale. Et puis un combat aussi qu'on souhaite mener à bien, l'égalité des salaires entre hommes et femmes à la ville de Paris, parce que c'est toujours pas le cas.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Moi c'est Kadiatou, je suis la porte-parole des Dames 93 de Saint-Denis.
Est-ce que tu peux me raconter depuis quand votre collectif il est créé et pourquoi il s'est créé ?
Il s'est créé parce qu'il y a des dames qui se retrouvent dans la rue pendant des années et des mois que les dames sont dans la rue avec des enfants. Donc on en a marre, on a dormi dans la rue pendant des années, on est fatigué. On appelle le 115, pendant des années on ne nous répond pas, il n'y a pas de la place chaque jour, on en a marre. Donc on est créé pendant, ça fait 7 mois maintenant.
Vous avez déjà fait plusieurs actions. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus s'il te plaît?
Les actions qu'on a fait, on était devant la mairie de Saint-Denis, on a eu de rendez-vous avec le maire. On nous a dit qu'il n'y a pas de solution pour nous, donc on en a marre.
C'est ça qu'elle a répondu la mairie de Saint-Denis?
Oui, qu'il n'y a pas de solution pour nous, qu'il ne peut rien faire parce que c'est pas elle qui a la base de logement de Saint-Denis. On n'est qu'à aller voir le préfet, c'est ce qu'il nous a répondu.
Maintenant aussi, quand la 115 t'héberge, si on t'héberge comme ça à Bagnolet, tu veux te rendre à la CCS de Bagnolet pour être domicilié. Moi, je me suis rendu là-bas, ils ont dit que non, que parce que je n'ai pas un titre de séjour, que donc on ne peut pas me domicilier. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On est fatigué, on nous viole, on nous frappe, on est maltraité pour se laver même ses problèmes. On en a marre, on est fatigué.
Résultat, vous avez décidé de vous organiser en collectif.
Oui, on est fatigué. Moi, j'ai dormi au dehors. J'étais enceinte 3 mois, jusqu'à j'ai accouché, jusqu'à je suis tombée malade, c'est l'hôpital qui m'a hébergé 4 mois. J'ai fait 4 mois à l'hôpital là-bas. D'ici la 115, je vais me loger. C'est l'hôpital qui m'a hébergé. D'ici, je vais accoucher parce que j'étais déprimée jusqu'à malade dans la tête, mentalement même. Mais je dis,
nous sommes ici depuis ces 3 ans. Je suis en France. Je n'ai pas l'endroit pour dormir. J'ai fatigué des viols et j'ai la force pour travailler. Mais j'ai fait les prostitutions pour ce que je n'ai pas comment vivre. Ici, c'est le pays. Il faut que le pays, comme c'est les protections pour nous. Au moment que nous avons on dort dehors, il n'y a pas une possibilité pour manger, là pour dormir, avec les foies. Les femmes comme nous, on nous viole pour ce qu'on dort dehors, madame. On a fatigué de dormir dehors. On a fatigué de ça. Vraiment, aide-nous. Que l'État aide-nous. Qu'elle nous donne les papiers pour le travail. Moi, j'ai les forces de travailler. Je suis une femme. Je ne peux pas dormir dehors. Je suis fatiguée de tout ça. Nous sommes quittés notre pays. Ce n'est pas pour les biens. Si c'était comme ça, ce n'était pas comme ça. Nous sommes venus ici comme c'est un pays de protection, d'asile. Dans mon pays, j'ai souffert. Je n'ai pas les parents. Je n'ai pas où je peux partir. Mais je suis ici pour me protéger. Mais je suis dehors, madame. Je suis fatiguée. Pendant 3 ans, je suis sortie en Grèce. Grèce, j'ai passé Macédoine, Slovénie, en Brousse, 2 mois. Mais je suis dehors. Je suis dehors, madame, je suis fatiguée.
Yannama,
bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, bonjour, je suis Rosa Muriel Mestanza et je suis péruvienne. Et on est ici avec la présidente Ruth Zúñiga, présidente de l'association des femmes péruviennes affectées par l'estérilisation forcée au Pérou, et qui est venue en France pour une conférence à laquelle elle est invitée, une conférence universitaire, et du coup on a profité pour venir manifester, pour demander justice, vérité et réparation pour toutes les femmes victimes de stérilisation forcée au Pérou, qui depuis les années 95 jusqu'aux années 2000 ont subi des stérilisations forcées produites par l'État péruvien, qui était à ce moment-là une dictature d'Alberto Fujimori, qui est mort sans payer pour ce qu'il a fait. Et nous sommes là pour demander une réparation pour toutes ces femmes qui non seulement elles ont été stérilisées contre leur volonté, mais qui en plus de ça, elles ont subi tout un tas de conséquences à cause de cette ligature de Trump qu'elles ont subi, parce que ces ligatures, elles ont été faites n'importe comment. Et ça a causé beaucoup de problèmes de santé, comme aussi des problèmes au sein de leur communauté, parce que la plupart de ces femmes-là sont des femmes issues des zones rurales, des femmes agricultrices, des femmes des populations indigènes du Pérou. Et c'est là que le programme s'est focalisé pour stériliser toutes ces femmes-là, qui étaient celles qui avaient le moins de ressources au Pérou, et en profitant aussi qu'elles n'avaient pas l'espagnol comme langue maternelle et qu'elles parlaient quechua. Et nous demandons justice pour toutes ces femmes-là qui attendent justice depuis les années 95 et que jusqu'à maintenant, elles n'ont même pas eu une réparation de la part de l'État. Actuellement, il y a un procès qui est en cours, mais qui a été mis en pause à cause de la situation politique critique du Pérou, dans laquelle le président de gauche qui avait gagné a été destitué, et c'est le congrès de droite, voire d'extrême droite, qui a pris le pouvoir et qui du coup a bloqué tout type de justice possible pour ces femmes. Et nous venons en France pour visibiliser cette lutte, pour que en France, en Europe, on connaisse l'histoire de ces femmes, et que depuis ici on puisse crier justice pour toutes ces femmes péruviennes affectées par les stérilisations forcées, pour les hommes aussi qui ont été affectés de façon moindre et qui ont aussi été affectés. C'est une politique coloniale, raciste, impérialiste, et nous sommes là pour la dénoncer et nous n'allons pas nous arrêter de lutter. Ruth Zúñiga, c'est une personne admirable, c'est présidente de l'association. Elle n'a jamais lâché sa lutte. Et nous, les jeunes péruviennes, on est là pour la honorer, pour la continuer, parce qu'on est dans l'admiration de sa lutte et de toutes les camarades du Pérou.
Très bien. Alors, juste, je vais peut-être en profiter pour te demander si tu as aussi peut-être une voix à apporter par rapport à la situation et au contexte politique global.
Bien évidemment, toutes ces luttes-là que nous emmenons au Pérou pour les corps des femmes, pour qu'elles puissent avoir une liberté dans le choix d'avoir des enfants ou non, elle est forcément en lien, elle fait forcément écho à ce qui se passe en Palestine actuellement, dans lequel il y a un génocide, dans lequel on tue des enfants, on met dans des dangers les femmes enceintes et toute la population, parce que c'est un génocide. Ça peut se mettre en parallèle avec une politique de nettoyage ethnique comme la stérilisation forcée peut représenter. Donc il y a un parallèle qui est clair, et nous on est en soutien à 100% avec la Palestine actuellement. On est aussi en soutien avec les femmes françaises qui luttent pour leurs droits, dans ce pays, dans lequel il y a des politiques racistes contre nous, les migrantes, dans lequel on nous met des lois immigration dans la gueule, on veut supprimer l'AME, on fait la chasse à sans papiers. Nous, on est là pour faire écho à toutes les luttes, et on s'inscrit aussi dans la lutte en France.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et vous êtes de retour dans l'actualité des luttes, toujours jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous venez donc d'entendre les quelques reportages que nous avions pu réaliser lors de cette manifestation du 23 novembre dernier. Dans l'un d'eux, vous avez entendu le collectif qui combat pour l'hébergement dans le 93. Nous profitons des quelques minutes qui nous restent dans cette émission pour vous diffuser un rendez-vous auquel elles appellent. Ce rendez-vous donc aura lieu le 2 décembre prochain. Et c'est donc une après-midi festive et revendicative qui se déroulera à partir de 14h devant la mairie de Saint-Denis et qui se terminera par un départ vers la sous-préfecture à 17h le même jour. Nous vous invitons donc à les rejoindre pour ce rassemblement qui aura lieu le lundi 2 décembre prochain et nous vous tiendrons informés sur cette antenne de la suite de leur combat. Les rendez-vous ayant été donnés, nous terminerons cette émission avec quelques remarques et un petit rappel. Tout d'abord, nous regrettons qu'il y ait eu moins de monde à cette manifestation que les années précédentes, notamment car cela s'ajoute à notre seconde remarque. En effet, nous nous interrogeons sur la pertinence du fait de ne pas avoir de prise de parole lors de l'ensemble du cortège, sur les différents moments de la manifestation, et donc de l'absence finalement de discours. La manifestation, si elle est une occasion de se compter, est aussi une occasion de se politiser, d'être à l'écoute de certains discours, de lire des tracts, d'échanger avec ses camarades tout autour de nous. Et il nous a semblé que cela n'était pas pris en charge par le collectif Nous Toutes, et que bien que cette date soit extrêmement importante, elle se réduisait un peu trop à notre goût à un événement. Ce qui par ailleurs permet par la suite de ne pas laisser la place à l'élaboration d'un véritable discours féministe qui intègre l'ensemble des forces en présence. Cette remarque étant faite, nous terminons donc l'émission Nous autour de la question du féminisme identitaire, car il nous semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'être en mesure de tracer des lignes idéologiques. On vous laisse donc avec Magali Della Souda, qui a écrit Les nouvelles femmes de droite.
Je me suis intéressée à ce qui se passait du côté du RN. Arrivée de Marine Le Pen, on entre dans une dynamique qu'on appelle fémonationaliste, avec un usage stratégique de certains enjeux du féminisme, notamment les violences faites aux femmes, qu'on va articuler soigneusement avec l'enjeu de la lutte contre l'immigration. Donc le problème pour les femmes, ce n'est pas le patriarcat en général, ce n'est pas la domination masculine. Le problème pour les femmes, c'est l'importation en France d'un patriarcat exogène, étranger, d'une religion intrinsèquement patriarcale que serait l'islam. Et donc, on ne peut pas lutter contre les violences faites aux femmes sans lutter contre l'immigration. Et c'est notamment à Lyon que s'élaborent un certain nombre de cadrages, de formulations, de matériel de campagne pour préparer 2017 avec ce think tank qui est le Cercle Fraternité, donc qui va être chargé de fournir au RN donc sa matière à penser sur la question des femmes. Et on va s'éloigner effectivement chez Marine Le Pen de ses discours de 2011 sur l'avortement. Alors 2012, avortement de confort. 2011, elle proposait le déremboursement de l'IVG, puisque si c'est un choix individuel, pourquoi la collectivité devrait-elle le rembourser ? Aujourd'hui, elle ne tient plus ce discours-là. Mais néanmoins, on partait de là quand moi, je commence mes recherches. Et puis ce cercle fraternité, il va continuer à exister pour votre gouverne. Il va irriguer la campagne d'Éric Zemmour. Et quelques-uns vont rester à irriguer la campagne de Marine Le Pen 2022. Autre courant politique qui n'est pas tout à fait le même et qui est séquent, c'est cet espace des identitaires. Donc à Lille, vous aviez un foyer de militantisme avec des lieux bien repérés, la Citadelle, sauf erreur, de génération identitaire avec une implantation et des militantes chevronnées. Les identitaires, c'est une formation politique qui se restructure dans les années 2010 et qui va se faire fort d'avoir des femmes dans ses rangs. Et comme me l'avait dit l'un d'entre eux, les femmes, c'est comme les grenouilles. Donc moi, j'avais été surprise en entretien. C'est l'anecdote qui m'avait vraiment surprise. Et je comprenais pas trop la métaphore de la grenouille. En fait, il m'avait expliqué que dans sa région d'origine, qui était fortement polluée, un très bon indicateur de l'eau des rivières, c'est la présence de grenouilles. Donc une organisation politique, c'est comme les rivières. S'il n'y a pas de femmes, c'est comme les rivières et les grenouilles. En gros, c'est qu'il y a quelque chose de malsain, quelque chose qui ne va pas. Donc chez les identitaires, on fait de la place aux femmes, enfin, là encore avec quand même un plafond de verre comme dans d'autres organisations militantes. Et ces militantes identitaires, elles s'organisent en 2011 avec un activisme en ligne très développé où elles veulent faire un fanzine féminin qui permettrait de diffuser plus largement, là encore, les idées donc, de défense de la civilisation européenne, de mener cette bataille culturelle métapolitique, comme ils disent, et de conquérir les femmes à leurs idées pour faire avancer la révolution qu'ils appellent de leurs yeux pour restaurer la civilisation occidentale. Ces femmes-là, elles vont prendre part à la manif pour tous, au cortège notamment, elles vont conquérir leur fait d'armes dans la rue, et puis elles vont vieillir aussi, elles vont changer de répertoire d'action, elles vont faire autre chose dans les années qui suivent. Mais pour autant, dans ce milieu identitaire, Cette idée d'organiser les femmes, elle n'est pas morte. Et en 2019, on voit apparaître dans la presse conservatrice un collectif qui s'appelle Némésis, qui fait son coup d'éclat à l'occasion d'une grande marche contre les violences faites aux femmes, où elles vont rentrer dans le cortège avec des banderoles et des pancartes assignant les violences faites aux femmes aux immigrés, aux hommes immigrés. Et elles vont se faire sortir du cortège. Et donc là, cette scène-là va être filmée, prête à poster sur les réseaux sociaux et va faire exister dans l'arène médiatique ce collectif Némésis. Depuis, Némésis est représentée par sa présidente dans des émissions de divertissement. Par exemple, elle est chroniqueuse à Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna. Et on voit, quand on suit l'itinéraire des vidéos, comment... En fait, cette presse conservatrice et ces empires médiatiques qui se restructurent, là encore, pour préparer l'union des droites, se sont servis et ont servi de tremplin à ces femmes-là. Donc ça, il y a une entente de bon intérêt. Hein. Elles font du buzz, on les invite, et en même temps, elles peuvent avancer leur discours et faire entendre à des femmes qui ne sont pas du tout sensibles à leurs valeurs et à ces idées-là, leurs idées.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.